petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Le bien commun, c'est quoi ? La question n'est pas celle d'un programme étudiant à Sciences Po, non. Non, elle exprime surtout la curiosité empressée de tout un chacun dans un monde de concurrence exacerbée qui nous tourne boule. Le bien commun semble être une notion extraterrestre, une étoile inconnue et inaccessible. Pourtant, les politiques prononcent souvent ces mots « bien commun » pour positiver en fin de discours. Plus sérieusement, Jean Tirole, de l'École d'économie de Toulouse et prix Nobel d'économie en 2014, a écrit un livre en 2016 sur le bien commun. Surtout, l'Église propose cette idée dans sa doctrine sociale dont Jean XXIII réaffirmait qu'elle était une partie intégrante de la conception chrétienne de la vie. Le bien commun n'exclut pas la concurrence, mais il en fait un des moyens du dynamisme et de régulation économique, et non pas le but de la société. La concurrence n'est pas le but de la société, ni son épanouissement personnel unique. La concurrence acharnée, c'est la guerre économique, voire la guerre tout court. Sous la reine Victoria, l'Angleterre inaugure le grand capitalisme et balbutie la démocratie, tout en dominant la planète au XIXe siècle. Et simultanément, l'Angleterre victorienne invente les deux futurs grands sports de masse, le rugby et le football. Eh bien justement, c'est l'idéal sportif qui va servir de morale au capitalisme et à la démocratie. Compétition, oui, intensément. Compétition économique du capitalisme, compétition électorale de la démocratie, compétition certes, mais dans le respect des règles, des personnes et en esprit d'équipe. Aujourd'hui, la compétition fait rage et l'arbitre n'est autre que le plus fort. C'est la guerre des taxes de douane. Où est donc passé le bien commun ? Cette question est en fait celle de toutes les générations. Elle est évidemment celle du contrat social de Rousseau. Rousseau dit que la société a perverti l'état de nature au point que chacun est en guerre contre tous pour conquérir et préserver sa propriété. Exit le bien commun. Mais les belligérants en ont eu assez des violences meurtrières et décidèrent de s'accorder sur un contrat de paix, le contrat social. En quelque sorte, ce sera un contrat du guerrier fatigué de faire la guerre. Le contrat social de Rousseau n'est pas un traité de paix, mais un simple cessez-le-feu. Une coexistence pacifique qui retient les prétentions égoïstes et individualistes. L'intérêt général doit désormais l'emporter sur les intérêts particuliers, source de conflits mortifères. Dès le chapitre 6 du livre 1 du contrat social, Rousseau affirme ce qui devrait faire réfléchir ses adorateurs qui généralement ne l'ont pas lu. En effet, le contrat social implique, je cite, « l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à la communauté entière ». Fin de citation. exit la liberté. Disons aussitôt que l'intérêt général, selon Rousseau, et selon tous ceux qui parlent d'intérêt général, reste un intérêt, comme le nom l'indique, intérêt général. Quant à nous, nous ne parlons pas d'intérêt, mais de biens. De biens qui peuvent être des biens matériels, mais aussi des biens relationnels et d'épanouissement personnel. De plus, ce bien n'est pas général comme dans l'expression intérêt général. L'intérêt général est uniforme pour tous les associés, tandis que le bien commun est un effort collectif, mais dans le sens du souci de l'épanouissement propre à chacun. Par exemple, 80% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat relève de l'intérêt général. Mais pour que chacun puisse parvenir au maximum de ses possibilités et de sa vocation, relève du bien commun. L'adage républicain, issu de la Révolution française, stipule que, je cite, « la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres ». Ce n'est pas faux, mais on voit bien ici qu'autrui est un gêneur, qu'autrui est un handicap, qu'autrui est une limite à ma liberté. Au contraire, par le bien commun, autrui est la condition du sens de ma vie et de mon épanouissement. Ainsi, je cite ce qui pourrait être le nouvel adage, « la liberté de tous commence quand chacun se sent responsable de lui-même, des autres et de la nature. » Il y a là un projet de vie, un projet de société. Ce qu'il y a de commun procède de ce que l'enseignement social chrétien appelle la destination universelle des biens. Certes, la propriété privée est nécessaire, sinon la liberté ne s'exercerait pas, car elle s'exercerait sur rien. Mais, comme le dit Vatican II, je cite, « l'homme ne doit jamais tenir les choses qu'il possède légitimement comme n'appartenant qu'à lui, mais les regarder aussi comme communes. » Fin de citation. Attention, ce bien commun n'a rien à voir avec le bien communiste, car la source et la finalité de la vie économique et sociale n'est pas le sens matérialiste de l'histoire, mais c'est chaque personne humaine fraternellement co-responsable. C'est pourquoi l'encyclique Mater et Magistra de Jean XXIII en 1961 écrit le principe de base de l'enseignement social chrétien et que les êtres humains sont et doivent être fondement, but et sujet est au pluriel, de toutes les institutions où se manifeste la vie. Ce principe de base protège la dignité sacrée de la personne humaine. Fin de citation. La dignité sacrée s'oppose à ce que la personne serve de moyen économique ou politique pour l'enrichissement d'individus ou la soif de pouvoir de quelques autres. Chaque personne est une fin en soi. Pour que chacun soit fondement, but et sujet, la participation des salariés aux bénéfices d'une part et à la gestion d'autre part des entreprises doit se développer. Mais il y a mieux. Par exemple, les sociétés coopératives ouvrières de production, où les salariés sont collectivement aussi les actionnaires de l'entreprise. De même, les consommateurs peuvent devenir actifs par l'intermédiaire d'une véritable traçabilité sociale et économique des produits, afin de pouvoir que les consommateurs puissent faire des choix de clients éclairés. Je pense aussi à des expériences telles que celle du Larzac. Dans les années 1970, prolongeant 1968, le Larzac s'est distingué par de puissantes manifestations, généralement originales, contre une forte extension d'un camp militaire. En 1981, Mitterrand renonce à cette extension. À partir de là, les générations vont changer de posture sur le Larzac, mais en continuant à faire preuve d'originalité et de tolérance, de diversité d'opinion, avec en commun la volonté de fonder une paysannerie nouvelle. Effort pour la rentabilité des fermes de 4 à 500 moutons. Volonté de chercher l'usage des terres, l'usage, mais pas la propriété des terres. Aujourd'hui, sur 8000 hectares, la société civile des terres du Larzac est propriétaire, tandis que les fermiers sont usagers et à leur retraite, d'autres fermiers les remplaceront. Un conseil de 11 membres gère l'aspect foncier. Un film d'ailleurs en 2021, Larzac, le champ des possibles, de Thierry Koebler, et une pièce de théâtre ATP en 2025, cette année, Larzac, point d'exclamation, de Philippe Durand, circule avec brio en Occitanie et ailleurs sur ce thème du nouveau Larzac. On retrouve là le sens des communs du Moyen-Âge. Philosophiquement, les communs n'appartiennent à personne, ni à quelqu'un, ni à une banque ou une entreprise, ni à l'État, ni à une collectivité territoriale. Les usagers s'en partagent l'usage par des concertations entre eux. Contrairement à ce qu'on pouvait croire, ça marche, comme l'explique Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie en 2009. C'est ainsi que nous accédons peu à peu au sens du patrimoine commun de l'humanité quant à la nature et aux quatre éléments traditionnels, l'air, l'eau, la terre et le feu du soleil.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.